La coutume de s'immoler par le feu comme moyen de protestation est très spectaculaire, surtout quand, confortablement assis dans son fauteuil, on regarde ça d'un air ébahi au journal de 20 heures. Il fut un temps où ce spectacle était l'apanage des bonzes. Ils annonçaient d'avance où et quand ils allaient accomplir leur acte étonnant et courageux. Mais ce genre de suicide n'est pas nouveau. Parmi les faits de guerre, les bâtiments ou les villes brûlées sont légion, et ce fut aussi le sort que les ennemis de l'Assyrie réservèrent à Ninive, sa capitale. Selon une tradition attestée par plusieurs historiens antiques, quand les Mèdes et les Babyloniens pénétrèrent dans la ville, l'avant-dernier roi assyrien a lui-même mis le feu à son palais et s'est immolé avec toute sa suite, ses serviteurs et ses concubines, sans leur demander leur avis, on peut être sûr. Tout au long de ses oracles, le prophète Nahum mentionne le feu comme moyen avec lequel l'Éternel a l'intention d'en finir avec la capitale de l'Empire assyrien. Je continue à lire dans le chapitre 3 de son livre. « Là, le feu te consumera, l'épée te détruira, et elle te dévorera comme des sauterelles. » Verset 15. Tandis que le feu anéantira les bâtiments de Ninive, l'épée des Mèdes et des Babyloniens dévorera les habitants comme des sauterelles qui arrivent soudainement et détruisent absolument tout ce qui est vert. Dans le texte, le mot hébreu pour sauterelle est « gélek » qui veut dire le lécheur. Seulement cette bestiole ne fait pas que lécher, elle croque et elle dévore. En Palestine, la sauterelle était particulièrement redoutée parce qu'elle se déplaçait en horde composée de plusieurs centaines de millions d'individus qui formaient des nuages tellement épais qu'ils obstruaient le soleil. Ce phénomène était courant, mais les conséquences dramatiques pour une société entièrement axée sur l'agriculture. Ce fléau était généralement précédé par une sécheresse persistante et par le vent chaud du désert qui desséchait toute la végétation. Puis, ce même vent apportait avec lui les sauterelles. Armées de mandibules puissantes garnies de petites dents aiguës, elles dévoraient tout ce qu'elles trouvaient à se mettre sous la dent, y compris l'écorce des jeunes arbres. Le prophète Joël écrit « Ce qu'a laissé le gazam, l'arbé l'a dévoré. » Ce qu'a laissé l'arbé, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le chasil l'a dévoré. Si on traduit, ça donne « Ce qu'a laissé le trancheur, l'essaimeur l'a dévoré. Ce qu'a laissé l'essaimeur, le lécheur l'a dévoré. Ce qu'a laissé le lécheur, le rogneur l'a dévoré. » Cette accumulation de mots menaçants par le prophète Joël a pour effet d'intensifier la puissance de destruction des insectes. La comparaison par des armées mèdes et babyloniennes à des sauterelles signifie qu'une fois le sac de Ninive terminé, il n'en restera absolument rien, sinon des ruines. Je continue. Que ta population pullule comme les sauterelles en larves et comme les jeunes sauterelles. Verset 15. Ici, Nahum s'adresse non plus aux assiégeants, mais à Ninive, et lui ordonne d'accumuler autant de combattants que possible afin de défendre la ville. Le premier mot hébreu pour sauterelle signifie « essaimeur ». Il s'agit de la larve née des œufs qui a très faim. Le deuxième mot est un terme général qui désigne les jeunes sauterelles pleines de vitalité et donc prêtes à en découdre avec tout ce qui est vert. Même si les Assyriens auraient pu être aussi nombreux qu'un nuage de sauterelles, ça n'aurait servi à rien. Ici, le prophète est encore une fois moqueur, parce que comme les Mèdes et les Babyloniens ont battu les Assyriens à plate couture et sont les maîtres de la plaine, il est hors de question qu'ils puissent recevoir des renforts d'où que ce soit pour venir en aide à la ville assiégée. Je continue. « Tu as multiplié tes commis voyageurs, ils surpassent en nombre les étoiles du ciel, mais la sauterelle lécheuse se répand sur le sol, puis prend son envol. » Verset 16. À l'époque de Nahum et jusqu'à sa chute, Ninive était un centre économique d'une très grande importance, pas seulement à cause de la suprématie militaire de ses armées, mais d'abord par sa situation géographique. En effet, les routes d'Asie mineure, de la Syrie, d'Égypte et de la Phénicie qui allaient vers la Médie, la Perse et l'Asie centrale convergeaient toutes à Ninive et y apportaient des articles venus de tous les pays. Les Assyriens eux-mêmes exportaient aussi de nombreux produits manufacturés comme des textiles, des tapis, des vêtements brodés ou colorés, des objets sculptés en ivoire, ainsi que des pierres précieuses et des épices. Les représentants de commerce de Ninive parcouraient le monde entier. Mais cette frénésie marchande qui contribuait à l'essor économique de Ninive, à sa richesse et au luxe inouï de la classe dominante, est terminée. En effet, dès que les voyageurs de commerce de cette époque ont eu vent des bruits de bottes de l'approche de Ninive d'une armée ennemie, ils ont cessé tout commerce avec la ville. Tout le monde sait que le monde des affaires n'aime ni la guerre ni l'incertitude. Or, le siège et donc le blocus des personnes et des biens a duré 3 ans. En second lieu, dès que les armées ennemies auront pénétré dans les murs de la capitale assyrienne, le commerce d'antan sera bien loin car il sera avant tout question de pillage. Comme des sauterelles, les vainqueurs sauteront sur tout ce qui a de la valeur et l'emmèneront ou le détruiront. Je continue. Ils pullulaient tes inspecteurs comme des sauterelles, tes officiers grouillaient comme des essaims de criquets, ils se posent dans une haie par un jour de froidure, dès que le soleil brille. Les voilà envolés et disparus, on ne sait où. Verset 17. Ninive était devenue un état policier où tout et tout le monde était surveillé par des inspecteurs de la Gestapo assyrienne. On a retrouvé une très grande quantité de tablettes attestant d'une activité administrative considérable. Ces agents qui étaient partout sont comparés à des criquets parce que par temps froid, ils deviennent tout ankylosés et cherchent un refuge où ils peuvent, à l'abri d'un mur ou d'une haie, mais dès qu'un rayon de soleil vient les réchauffer, ils s'envolent sans qu'on sache ce qu'ils sont devenus. Pareillement, les agents de l'État, qu'ils soient militaires ou civils, sont paralysés par la peur et donc inutiles. Les sentinelles qui faisaient leur tour de ronde sur les murailles vont s'enfuir et tout ce qui représente la force de l'État va se désintégrer et disparaître avec Ninive à tout jamais et sans laisser de traces. Je continue. Roi d'Assyrie, tes dirigeants sont endormis de leur dernier sommeil, tes capitaines sont couchés, toutes tes troupes sont dispersées sur les montagnes et nul ne les rassemble. Verset 18. Ici commence un court requiem, un hymne funèbre avec lequel Nahum termine ses oracles contre Ninive. Le prophète s'adresse directement au roi d'Assyrie parce qu'il personnifie la puissance, les fautes et donc les raisons pour lesquelles Dieu a jugé Ninive. Nahum ne parle pas spécialement au roi qui régnait au moment de la chute de la capitale, ni au tout dernier qui lui a succédé, et qui s'étant installé dans la ville de Haran, le lieu de naissance d'Abraham, a essayé de résister à ses ennemis, mais en vain. Nahum s'adresse à toute la lignée de personnages plus méchants et cruels les uns que les autres qui ont assumé la fonction de roi d'Assyrie. Les dirigeants que le prophète mentionne sont les princes et les conseillers sur qui dépendait la sécurité de la nation. Ils sont endormis, dit-il. Cependant, il ne s'agit pas ici du sommeil naturel, mais de la mort, car ils ont été tués par leurs ennemis. on trouve cette façon poétique d'exprimer la mort des guerriers et en particulier des héros tombés au combat dans d'autres textes. Le psalmiste écrit « Tous les vaillants guerriers ont été dépouillés, ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Tous ces héros de guerre n'ont pas su retrouver la vigueur de leurs mains. » Les responsables politiques de l'Empire assyrien étant couchés dans la poussière, les soldats et les gens du peuple qui n'ont pas été tués sont dispersés. Soit ils se sont enfuis, soit ils ont été capturés, mais ce qui est sûr est qu'ils ne forment plus un peuple cohérent. C'est une autre façon pour Nahum de signifier la fin de la puissance assyrienne en temps, quantité, politique. Je finis le livre de Nahum. Irrémédiable est ton désastre, ta plaie est incurable. Tous ceux qui apprendront ce qui t'est arrivé applaudiront à ton sujet, car qui n'a pas subi ta cruauté sans borne ? Verset 19. La ruine de Ninive est irréversible, car personne ne rétablira jamais plus le royaume dévasté. Un autre prophète écrit « L'Éternel étendra la main contre le nord, il fera périr la Syrie et il dévastera Ninive pour en faire un désert aride. Au milieu de la ville se reposeront des troupeaux des animaux de toute espèce. Le hibou et le hérisson y passeront la nuit parmi ses chapiteaux. On entendra ululer aux fenêtres dès le seuil des maisons. Ce ne sera que ruine et les poutres de cèdre seront à nu. » La voilà donc, cette cité joyeuse qui vivait pleine d'assurance et se disait « C'est moi et rien que moi !» Comment est-elle devenue une terre ainsi désolée, un gîte pour les bêtes ? Quiconque passera dans sa proximité se moquera d'elle en sifflant et en faisant des gestes de la main. La plaie de Ninive est due au coup qu'elle a reçu de la part de l'Éternel qui a utilisé pour bâton les armées babyloniennes, Mèdes et Scythes. Plus jamais on entendra parler de l'Empire assyrien car Nahum voit sa ruine complète et définitive, une prophétie que l'histoire et l'archéologie ont confirmée. La raison la plus souvent invoquée pour ce châtiment divin est la cruauté légendaire des Assyriens. Pendant des siècles, ils ont fait peser une oppression lourde sur de nombreux peuples qui rongeaient leurs freins en attendant l'opportunité de se venger. Bien qu'il n'ait pas participé à sa chute, le royaume de Juda aura aussi raison de se réjouir de la fin de Ninive, qui plusieurs fois s'est attaqué au peuple élu. Non seulement l'Empire assyrien n'est plus, mais tous ceux qui passeront devant les ruines de sa capitale, tout de suite après qu'elle aura été incendiée, applaudiront de joie et se moqueront de cette puissante nation qui est tombée en lambeaux. Malheureusement, le même sort a frappé Jérusalem après qu'elle fut prise et détruite par les Babyloniens. Je lis un passage. « Les passants sur la route battent des mains, ils sifflent, ils hochent la tête en te voyant, ô population de Jérusalem. Est-ce là cette ville qu'on appelait jadis beauté parfaite, joie de toute la terre ? Vois, tous tes ennemis ont ouvert largement leur bouche contre toi. » Ils sifflent, ils grincent des dents et ils s'exclament « Nous l'avons englouti, c'est le jour que nous attendions, nous y sommes, le voici enfin !» L'Éternel a réalisé tout ce qu'il avait résolu, il a accompli la parole qu'il avait prononcée depuis des temps anciens. Il a tout démoli sans aucune pitié, il a réjoui tes ennemis à tes dépens, il a exalté leur puissance. » Fin de citation. Cette troisième et dernière section du livre de Nahum que je viens de terminer contient sept unités, sept tableaux ou sept oracles qui annoncent chacun à sa manière la ruine de Ninive. Les deux premiers évoquent la fin de l'Empire assyrien, la prise de la capitale par les armées ennemies et la fin de ce pouvoir tyrannique comparé à un lion qui faisait sa proie de tous les peuples alentour. Les deux tableaux suivants mettent davantage l'accent sur les causes de la ruine de Ninive, sur les fautes graves qui lui ont valu un tel châtiment. D'abord ses actes de barbarie et de spoliation, Et ensuite, le déploiement de séduction de la civilisation assyrienne pour asservir les peuples, ce qui pousse Nahum à la comparer à une prostituée. Les deux unités suivantes de cette troisième section soulignent que la puissance si impressionnante de l'Empire assyrien n'empêchera pas sa ruine. Le prophète évoque tout d'abord l'exemple de Thèbes, capitale de la Haute-Égypte, dont la situation privilégiée pouvait la faire croire imprenable. Cette comparaison sert à montrer que la ruine de Ninive peut aussi arriver, même si cela paraît impensable, car quand Nahum a rédigé ses oracles, la Syrie était au fait de sa puissance. Ensuite, le prophète annonce que le système de défense de l'Empire, constitué de places fortes, peuplées de garnisons et réparties sur tout son territoire, sera réduit à néant par l'ennemi qui parviendra à l'intérieur de Ninive et la détruira. Le septième et dernier oracle annonce l'abandon de la cité impériale maudite par sa population nombreuse, la fin de ses marchands qui assuraient son ravitaillement, sa vitalité et sa puissance économique, et la disparition de ses inspecteurs qui surveillaient et contrôlaient tout ce qui se passait. Une fois le jugement de Dieu mis à exécution, il ne restera plus rien de cette civilisation brillante. La conclusion du livre, qui est aussi son dernier verset, souligne le caractère définitif de la ruine de Ninive. Les autres peuples applaudissent alors, car c'est pour eux la libération d'une domination tyrannique et l'espoir d'un ordre nouveau. Mais ils ne savent pas encore que la botte assyrienne sera suivie par celle de Babylone, puis ce sera la Perse et la Grèce, et enfin Rome, pour ne citer que les plus célèbres. Le despotisme humain ne s'arrête jamais. Nous possédons très peu de détails sur les trois dernières années du royaume d'Assyrie qui suivirent la ruine de Ninive. Son dernier roi ne régna que 3 ans. Comme je l'ai dit, il se réfugia à Haran et n'a laissé que 2 inscriptions qui nous sont parvenues. Il y parle d'une restauration du temple de Nébo et de la construction d'un palais à Nimrod. Mais ce dernier n'avait rien de luxueux, bien au contraire. C'était un bâtiment misérable qui attestait la décadence et la fin de l'Empire. Par contre, nous savons que sous le règne d'Assurbanipal, le dernier grand roi assyrien, par son énergie et sa cruauté, ce dernier sut encore réprimer les révoltes des provinces et continua à écraser d'impôts ses sujets afin de satisfaire ses goûts de luxe et de faste. Il construisit des palais magnifiques et c'est dans celui de Ninive que l'on a trouvé cette bibliothèque assyrienne qui est aujourd'hui l'un des plus précieux trésors du musée britannique. Mais la décadence, retardée par l'énergie de ce roi brillant, n'en sera que plus rapide, une descente aux enfers sur laquelle les inscriptions assyriennes sont évidemment muettes. C'est l'Égypte qui fut le premier vassal à s'affranchir du joug assyrien, et bientôt un autre ennemi surgit à l'horizon. Ce sont les Mèdes qui avaient enfin réussi à créer un État. À l'origine, c'était des tribus nomades, mais ils furent réunis en une force combattante qui attaqua avec succès les armées assyriennes, mais ils échouèrent devant Ninive et leur chef fut tué. Son fils, Syaxar, prit la tête de la jeune nation et voulut venger la mort de son père au plus vite. Il réussit à s'avancer avec son armée victorieuse jusque sous les murs de Ninive, mais un fâcheux contretemps l'obligea à lever le siège et à retourner en toute hâte dans son pays pour le défendre contre les Scythes qui l'avaient envahi. Il les combattit avant de s'en faire des alliés. Dès que ce danger fut écarté, Syaxar revint à la charge avec son allié Nabopolassar, vice-roi de Babylone et père du futur souverain Nabuchodonosor. Si nous en croyons les historiens grecs, le siège de Ninive dura 3 ans, et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, la ville ne fut prise qu'à la suite d'une inondation du Tigre qui emporta les remparts nord sur une longueur de 3 kilomètres. Le roi assyrien désespéré s'immola alors par le feu dans son palais. C'est ainsi que fut anéantie la grande ville de Ninive et avec elle l'empire et le peuple assyrien dont l'histoire ne fait plus jamais aucune mention. Ce désastre eut un retentissement immense dont nous trouvons l'écho dans les prophéties d'Ézéchiel. La destruction de Ninive fut si complète qu'il a fallu attendre 1845 pour que des archéologues mettent à jour les restes magnifiques de la ville qui avait régné sur le monde antique, mais que l'Éternel avait frappé du jugement de sa colère. Le message de Nahum est à la fois sévère et haut en couleur en raison d'un style très vivant. Il veut montrer à Judas, son peuple, combien il est vain de se laisser impressionner par la puissance assyrienne et par les charmes de sa civilisation. Le royaume de Judas, dans sa petitesse, devrait plutôt demeurer fidèle à sa vocation de peuple de Dieu au lieu de jouer la carte de la soumission et du conformisme à la grande puissance du moment. Bien plus tard, l'apôtre Paul ne dira pas autre chose quand il écrira aux Romains « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. »